enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Gloire à Dieu et que le Seigneur soit béni. Merci pour ta parole et merci pour tout ce que nous avons échangé ce matin. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Que ton nom est infiniment grand. C'est une prière que je fais comme ça, mais en chantant. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté est au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté est au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ô Dieu, très haut. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté est au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ô Dieu, très haut. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté est au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. C'est une prière que j'adresse à Dieu à travers cette chanson. Que le Seigneur soit béni. Je vais partager avec vous pendant 40 minutes. Ça y est. La pensée de Dieu, et je crois que ça fait du bien à beaucoup de personnes. Je prêche beaucoup sur la foi. C'est maintenant que je comprends pourquoi je prêche beaucoup sur la foi. Hier, j'en parlais un peu avec le frère Alain, et c'est vrai que on m'a donné ce nom Abraham, et maintenant je commence à comprendre que c'est vrai, et ça c'est vrai aussi, que le nom a pu avoir un impact sur la vie de quelqu'un. En tout cas, chez les Hébreux, c'est les Juifs, c'est tout à fait très clair. Hein. Et en observant mon ministère, je me suis rendu compte que je prêchais beaucoup sur la foi. Quand je fais une observation générale, j'ai commencé à prêcher vraiment, à bâtir une église en 2000, donc ça fait à peu près 7 ans maintenant, 6 ans et quelques. Et la moitié de mes messages est consacrée pratiquement à prêcher sur la foi. Et je me suis rendu compte qu'en prêchant sur la foi, la vie des gens allait vers le haut. Vers le haut. Donc ce matin, ça sera un peu dans le registre habituel dans lequel Dieu m'a accordé de voler, parce que chacun a un ministère particulier, chacun volue selon ce qu'il a reçu. Mais bien avant cela, je voudrais faire une petite lecture de la situation actuelle avant de lire la Bible. Je vais le faire, et une petite lecture qui peut-être dans un premier temps peut ne pas avoir un rapport direct avec mon message, mais je fais cette lecture, c'est la situation actuelle. Je crois qu'en tant que chrétien, nous devons être à mesure de lire les événements que nous vivons. Et je crois que nous sommes en train de vivre des temps quand même qui pour moi sont historiques, j'ai envie de dire même prophétiques, par rapport à l'Occident, mais aussi par rapport à l'avenir de l'Évangile. Je crois que ce matin, j'écoutais Michel avec le frère Pétier, madame parlait un peu de la France, de ce qui se passe, et bien entendu, avant que je n'écoute ce que vous disiez, j'avais déjà écrit quelque chose sur cela. Donc, donnez peut-être mon commentaire sur la situation actuelle. Je crois que l'Europe et l'Occident est une bénédiction pour le monde entier. et à travers l'évangile qui a été prêché, les missionnaires qui sont venus dans nos contrées, en Asie, un peu partout, et beaucoup sont morts sur les voies ferroviaires, enfin surtout les voies sur les voies de la mer et des eaux, beaucoup ont été mangés, tués. Et je crois que c'est quelque chose qui a été formidable. Et je crois aussi que cette civilisation occidentale a dominé le monde parce que justement, elle a porté le poids de l'évangile. Parce que je crois fondamentalement que quand nous portons l'évangile, Dieu nous rend dominants. Et ça, ça a été une bénédiction. Et il me semble que depuis quelques années, il y a un sort de soufflement. Je parlerai de fragilisation qui coïncide paradoxalement avec la régression de la foi et même le rejet de la foi. Donc ce qui a été pendant des années le socle ou la force, je dirais, de domination, d'influence de l'évangile a commencé à perdre un peu de sa portée. Et ça se voit bien entendu avec le monde qui pendant longtemps a été divisé en deux, n'est-ce pas, ce qu'on appelait la bipolarisation, hein, d'une part les États-Unis et d'autre part la Russie. Et cette bipolarisation a connu un peu une chute avec, n'est-ce pas, la chute du mur de Berlin. Quelqu'un peut dire, mais tiens, est-ce que ça a un rapport avec l'évangile? Il est en train d'aller dans les volets peut-être purement intellectuels. Non, vous allez voir que ça n'a un rapport avec l'évangile. Et cette bipolarisation, bien entendu, a donné ce qu'on appelle aujourd'hui l'unipolarisation avec la puissance, la superpuissance américaine qui elle-même a commencé à être fragilisée depuis le 11 septembre 2001. Et de plus en plus, vous voyez que cette force, cette puissance américaine qui était un peu le leader, n'est-ce pas, la clé de voûte de la puissance occidentale, a commencé elle-même aussi à passer par un temps de doute avec la montée progressive, puissante et je dirais agressive du terrorisme, mais de l'islam également. Pas comme forcément une religion, mais comme idéologie dominante. Et on assiste plus ou moins actuellement à, n'est-ce pas, à une multiple polarisation avec des puissances qui sont en train de naître. Et donc, vous voyez, ce qui était une action centralisée a commencé à aller vers ce qu'on appelle les périphéries. Les périphéries, notamment vers la Chine, qui est actuellement la quatrième puissance économique du monde, devant la France, vous savez certainement, et qui sera dans 15-20 ans. Et ça, je veux dire, à moins que Dieu intervienne de manière implacable, la première puissance économique du monde. Et il y a plus de chrétiens en Chine qu'en Europe. Vous savez, il y a entre 300 et 400 millions de chrétiens en Chine. Donc vous voyez que les choses commencent un tout petit peu à changer. C'est une puissance qui sont en train d'être comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud aussi, progressivement. Et comme je dis, cela coïncide avec la montée en puissance de l'islam. Alors, nous vivons ces événements. Et la question qu'on peut se poser maintenant pour arriver à un aspect qui est plus évangélique, hein, et plus spirituel, si on veut dire, comment pouvons-nous réagir? Ou comment pouvez-vous réagir? Comment est-il possible de réagir? Est-ce qu'on peut changer l'ordre des choses? Ou si l'Occident perd ce qui a fait sa puissance et sa force, donc, qui est l'évangile, qui est portée d'évangile et qui a été, je le répète encore, je le dis avec beaucoup de reconnaissance, une bénédiction pour le monde entier, comment est-ce que cette perte de vitesse et cette régression, et je dirais même ce rejet, comment dans ce rejet, le chrétien peut-il réagir? Le chrétien occidental peut-il réagir? C'est un peu une petite réflexion que je vous laisse. Peut-être on pourra en discuter après. Mais je vais peut-être l'introduire progressivement, enfin, le cadrer avec ce que je vais dire. Je crois, et ça je le dis maintenant, et la question que je pose, peut-on encore trouver des hommes et des femmes de foi dans cette génération? S'il semble que les événements vont très vite et que ces événements dépassent notre compréhension, est-ce qu'il est possible de trouver, que ce soit en Afrique ou ici, ou partout, est-ce qu'il est possible de trouver encore des hommes de foi, des femmes de foi, capables de changer les situations? Est-ce que les situations sont figées? Est-ce qu'on sont prédéterminés? C'est possible. Mais est-ce qu'il est possible, lorsqu'on se trouve en face d'un mur, de ce qui paraît impossible à changer, est-ce qu'il est possible d'arriver malgré tout à un bouleversement de l'ordre des choses? Alors, c'est de ça que je parlais ce matin. Et moi, pour moi, je crois que c'est possible. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles dans Luc, après ces considérations, je ne sais pas comment on peut dire ça, intellectuelles. Vous allez prendre vos Bibles dans Luc chapitre 18 et voir comment est-ce qu'une femme a changé ce qui paraissait impossible en son temps. On va peut-être l'adapter à un cas pratique. C'est dans Luc chapitre 18, le verset 1 au verset 8. Alors, je lis la Bible, la parole de Dieu. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de mon adversaire. Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même, bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me casse, me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra ou viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Vous asseoir. Et je reprends, je commence mon message par la fin et par la question. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On voit ici que le Seigneur est préoccupé par l'idée de savoir s'il est possible encore dans notre génération ou dans la génération à venir. Est-ce possible de trouver des hommes de foi ou des femmes de foi capables de renverser la vapeur, capables de changer la tendance qui semble, je dirais, irréversible? Ça, c'est une question importante. Quelqu'un aurait pu dire, mais tiens, pourquoi le Seigneur ne se préoccupe pas de la vie de péché, de la domination du mal, du règne, n'est-ce pas, du satanisme et de toute la terreur qu'on peut vivre? Mais ici, on se rend compte que la préoccupation fondamentale du Seigneur est de savoir est-ce qu'il est possible de trouver des hommes ou des femmes de foi dans notre génération capables de changer lors des choses. C'est une question que je pose et à la fin on va certainement arriver vers la réponse, proposer un peu ce que je vois, ce que je crois. Voyons, ici on a affaire à un juge unique. Un juge unique, c'est un juge qui est fondamentalement injuste, qui n'applique pas la loi, qui absolument, parce que normalement un juge, bon en tant que juge, je peux le dire, un juge est lié par le droit, il ne va jamais en dehors du droit, enfin en dehors de la loi. Sinon, il peut être poursuivi pour donner justice. Et absolument, il doit aussi rendre compte, ou plutôt, il doit absolument rendre justice lorsqu'on lui présente une décision, enfin, un problème. Le juge doit absolument rendre décision. Il doit dire le droit, en fait. Il est obligé de le faire. Mais il ne peut pas dire le droit en dehors du droit, c'est-à-dire en dehors des textes qui existent. Alors, si on lit bien ce passage-là, on se rend compte que ce juge avait l'obligation de rendre justice. Et ce juge était lié par les décisions, enfin, par les dispositions législatives ou réglementaires de son époque. Il devait absolument dire le droit. Il n'avait pas le choix. Vous savez, lorsque les textes sont écrits, vous devez l'appliquer. En fait, c'est ça, appliquer les textes. C'est l'article 482 du Code civil qui est très connu par n'importe quel juriste. Il dit tout fait de l'homme qui provoque des dommages à une autrui doit absolument réparer cela, ce qu'on appelle dommage intérêt. Article 1382. C'est très connu par tous ceux qui font le droit. Mais on se rend compte ici que ce juge, quoi qu'il était obligé par les textes à rendre justice, à dire le droit, pendant, il a refusé de le faire. Donc, ça paraît une situation qui pour moi ressemble à une situation irréversible. Voici quelqu'un qui est obligé de rendre justice, mais qui refuse de le faire. Vous savez, cette femme veuve donc aurait pu se lamenter et dire, mais tiens, mais je suis foutu, je ne peux absolument rien faire. Mais c'est le plan de Dieu, la volonté de Dieu que ce juge refuse, n'est-ce pas, de me rendre justice, de m'accorder ce à quoi j'ai droit. Et puis bon, se laisser faire et tout ça, et tomber, sombrer la dépression peut-être. Mais ce qui me paraît important, et ça c'est tout le sens de la question du Seigneur, est-ce qu'on peut trouver des hommes de foi ou peut-on trouver la foi sur la terre? Cette femme a compris en réalité qu'elle avait des droits. Et que même si le juge refusait de dire le droit, elle persévérait et réclamerait son droit ou ses droits jusqu'à ce que ses droits lui soient accordés. Et donc si le juge était unique, deuxièmement, on voyait que la femme connaissait ses droits. Et je crois que savoir ce à quoi on a droit est aussi pour moi le début de l'exaucement, le début du succès le début de la prospérité, le début de la guérison, le début de l'élévation. Même si on n'a pas encore apparemment l'exaucement souhaité, même si ce qu'on a ne s'est pas encore, ce qu'on veut avoir ne s'est pas encore réalisé, le fait de connaître son droit, de savoir que j'ai droit à ça, pour moi, c'est le début de l'exaucement. La question qu'on se pose, est-ce que nous chrétiens connaissons-nous vraiment nos droits? Je crois qu'avec Dieu, il est important de savoir ce à quoi on a droit lorsqu'on se donne au Seigneur. Cette femme savait ce à quoi elle avait droit. Et moi, je fais partie de ceux qui croient qu'en tant que chrétien, par la mort de Christ et par sa résurrection, on a droit à des succès. On a droit à la santé. On a droit à la délivrance. On a droit à l'élévation. On a droit à un mariage heureux, à un foyer heureux. On a droit à une vie excellente. Je me dis, on a droit à la distinction. Ouais, ce sont pas ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas dans un esprit de mendicité, mais elle avait droit à ce que le juge lui accorde, ce que son mari peut-être, que c'était un contentieux, je ne sais pas, et c'est pour que ce soit un contentieux, bon, à Félicie, bon, j'ai pas envie de faire l'actu de juriste, mais probablement on devait avoir un contentieux ici, peut-être que son mari, enfin, il y avait des gens qui avaient peut-être des dettes avec son mari, et vous savez que les dettes sont transmissibles, hein, donc voilà ce qu'on appelle les ayants droit. Et la dame peut-être réclamait que, bon, mais le magistrat a une décision selon laquelle elle devait récupérer les biens de son mari. Tout simplement ça. C'est la plus logique. Mais oui, ce qui paraissait logique et simple, apparemment, était plus compliqué que cela. Oui, des choses qui nous paraissent simples, que Dieu nous a promis, en tout cas dans la Bible, nous le voyons, mais dans les faits, nous ne le vivons pas. Et malheureusement, on se laisse aller dans une sorte de spleen, de situation, de délaissement, on coule, et puis bon, on pense que c'est des choses qui devaient se dérouler. C'est moi, je refuse cela. Le troisième élément que je remarque chez cette femme, c'est que, un, elle connaissait son droit. Deuxièmement, elle l'a réclamé. Un droit, ça se réclame. Ça ne se mendie pas en réalité. Et malheureusement, en tant que croyant, et je suis compris, et beaucoup de chrétiens nous sommes compris, nous prions comme, je m'excuse, mais comme des mendiants. On prie comme si on n'avait pas droit à quelque chose, à ça. C'est-à-dire, à la limite, quoi. Un peu comme si le Seigneur parlait, vous savez, une parabole qu'il a donnée, que les petits chiens, enfin, vous savez, cette femme syro-phénicienne qui réclamait la guérison pour sa fille. Et Jésus a dit, je ne suis venu que pour les bébés perdus de la maison d'Israël. Et tout cela, qu'on ne donne pas la nourriture aux petits chiens. Parce que bien entendu, qu'avant sa mort, Christ est resté très concentré sur sa mission, sauver Israël. Mais c'est après sa mort, on s'est rendu compte à la Pentecôte quand même, l'évangile a quitté les frontières d'Israël pour toucher le monde entier. Cette veuve-là, enfin, pas cette veuve, cette femme, la syro-phénicienne, elle avait mendié, elle avait demandé quelque chose. Et voilà ce que le Seigneur dit. Et cette phrase m'a frappé, j'ai fait un parallèle. Le Seigneur lui dit qu'on ne donne pas la nourriture aux petits chiens. Et la dame répond que même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Vous voyez ce que cette femme a dit. Le cœur du Seigneur avait été touché. Elle a dit, va, ta fille est guérie. Mais regardez ce que le Seigneur, cette femme appelle les miettes. En fait, la guérison de sa fille était vue comme étant des miettes. La guérison, ce qui paraît, je veux dire, le principal, semble être des miettes. Vous savez, le Seigneur a donné ici quelque chose de tout à fait très clair. La guérison, qui paraît quelque chose de normal, a été reconnu ou confondu, pas confondu, mais reconnu comme étant faisant partie des miettes. Elle a eu accès à cela. Aujourd'hui, je crois que nous qui connaissons le Seigneur, nous ne sommes pas des enfants, n'est-ce pas, enfin, des chiens, nous sommes des enfants de la table, qui avons accès au meilleur, qui partageons, il me dit, la grâce et la faveur de Dieu. Et en priant, nous devons avoir à notre esprit cette conviction que nous ne mendions pas des choses auxquelles on n'a pas accès et que Dieu, dans sa bonté infinie, nous accorderait, j'espère que je me fais comprendre, par pitié et par compassion, parce qu'on a beaucoup pleuré, parce qu'on a beaucoup gémi, ou peut-être parce qu'on a beaucoup gêné, alors Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous accorde sa grâce, nous accorde, n'est-ce pas, le mariage heureux, nous accorde la santé. Non. Pour moi, je considère cette parabole et de la parabole, enfin de cette femme, de cette histoire avec cette femme syro-phénicienne, que la santé fait partie des droits auxquels j'ai accès. La guérison fait partie des droits auxquels j'ai accès. Et ce droit que j'ai est bâti sur le fondement de l'œuvre de Christ à la croix. C'est-à-dire que c'est le mérite que Christ a eu, n'est-ce pas, de se donner pour moi, de m'acquérir comme héritage. Vous savez, dans Isaïe 53, la Bible en parle. Il dit, il aura une part avec les grands. Et par sa mort, il va attirer beaucoup de personnes au Père. Et c'est cela. Donc, c'est par les mérites de Christ que j'ai droit à ceci et j'ai droit à cela. Et on se comprend, on est tout à fait d'accord. Quand le Seigneur a dit que tout est accompli, ça veut vraiment dire que tout est accompli. Donc, en me mettant à prier, mais je prierai comme un fils légitime. Le serviteur ne peut pas entrer dans la chambre du maître. Le fils peut y entrer. Même sans taper la porte. Les enfants de 3-4 ans, ils poussent la porte, ils y rentrent. Mais pourquoi? Mais parce qu'il est fils. Tous ceux qui ont connu Christ comme Seigneur et Sauveur sont fils des dieux. C'est écrit dans la parole. Jean chapitre 1, verset 14. Non par la volonté d'un homme ou de la chair, mais par la volonté de Dieu. Et en tant que fils, donc héritier et co-héritier avec Christ, en m'adressant au Seigneur, je ne m'adresserai pas à lui comme étant un serviteur. Vous savez, moi, je pense qu'il y a une catégorie. Dans la maison de Dieu, certainement. Jésus a parlé une fois à ses disciples, il a dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Et des fois, le Seigneur dit, vous êtes des fils. Le privilège. Un fils hérite. Un fils peut prendre des décisions. Ce matin, ma prière et je dis, le but de mon message, c'est que dans notre esprit, dans notre relation avec Dieu, nous nous comportons comme étant des fils et des filles de Dieu, conscients de leurs droits. Et que peut dire, Seigneur, je te remercie parce qu'à la croix, tout est accompli. Tu as donné ton fils, je crois à cela. Et je crois que ce que tu as dit dans ta parole est vrai pour moi. Et je m'attends à cela. Que ça dure ou pas, je m'attends à cela. Cette femme avait compris un secret. Elle avait compris qu'elle avait des droits. Elle avait compris que les droits se réclament. Et à vous, Européens, ce n'est pas où je vais apprendre que vous avez réclamé vos droits et vous les avez eus. Vous les avez eus. Pour les Français, ils savent ce que c'est le 14 juillet 1789. Ça a été réclamé et vous les avez eus. Tellement bien vu qu'en France, on ne parle plus jamais de roi. Alors, si on peut prendre l'exemple sur l'histoire, je crois qu'on peut prendre l'exemple dans notre foi chrétienne. Parce que l'histoire, en fait, est là pour nous instruire dans notre marche avec Dieu. Cette attitude, non pas de réclamation, d'exigence, est une attitude de foi, de confiance absolue de ce que, en tant qu'enfant de Dieu, ben, j'ai droit à ce que Dieu me dit et je les réclame. Mais avec foi et avec reconnaissance. Alors, j'ai la foi et je dois avoir la foi et croire que Dieu m'exauce et qu'il m'a déjà exaucé. Vous savez, c'est une attitude, je dirais, de confiance. Je m'adresse au Seigneur. Dans mon esprit, je suis convaincu que ce que je demande au Seigneur, mais c'est sa volonté que j'ai. Parce que des fois, on tourne en rond parce qu'on n'est pas très sûr. Est-ce que Dieu veut vraiment cela? Non, non, non. Je sais que ça fait partie de ce que Dieu a promis. Alors, je m'adresse à lui avec confiance, avec reconnaissance et avec assurance. Et même si se produit des circonstances qui paraissent contraires, qui paraissent irréversibles et qui semblent être des circonstances qu'on pourrait attribuer à Dieu. Parce que des fois, lorsque ça paraît irréversible ou impossible, on se dit, tiens, je le crois qu'on le dit beaucoup plus par paresse. Au non-sens, c'est la volonté de Dieu que la soin ici. Alors, bon, c'est pas la peine de continuer à prier, c'est déjà arrêté. Je pense que beaucoup plus souvent, c'est plutôt par paresse que par foi. Par paresse parce que simplement, la vie de foi exige aussi la persévérance. La persévérance se fait aussi dans la prière. Dans la prière, j'ai envie de dire une prière profonde. Vous savez, c'est pas la prière qu'on fait juste quand on veut manger, mais c'est une prière qui exige des fois qu'on se retire des moments. Parce que dans son esprit, on peut voir l'exaucement. On peut sentir l'exaucement. Mais apparemment, nos yeux ne voient pas cela. Et on peut, n'est-ce pas, être tout à fait porté sur l'idée que ce que Dieu a dit, mais il le fera. Je vais illustrer cela par des exemples bibliques. Dans Hébreux chapitre 11, chapitre 6, verset 11 à 12, Hébreux chapitre 6, verset 11 à 12, il est dit simplement que nous devons imiter, Hébreux chapitre 6, verset 11 à 12, il est dit, nous devons imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Ah, ça c'est biblique, hein? Ce n'est plus maintenant personnel, c'est biblique maintenant. Il a dit, nous devons imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Dans notre version, il écrit, nous devons imiter ceux qui par la foi et l'attente patiente. J'aime dire une attente active, participative. C'est un thème qui est la mode, on parle de démocratie participative aujourd'hui. Vous savez, ce n'est pas une attente, je vais dire, béate ou, je ne sais pas moi, stoïque, mais une attente active. Non, je crois, j'espère que ce que Dieu a dit est vrai et c'est pour moi. Et ce passage parle d'Abraham, hein, dimanche passé, on en a parlé. Et ils sont attendus pendant des années afin que ce que Dieu a dit sur sa vie s'accomplisse. Il lui a fallu beaucoup de luttes, beaucoup de, n'est-ce pas, d'engagement. Et si on a imité ceux qui, par la foi et l'attente patiente ou la persévérance, rient des promesses, alors on n'a pas le choix. Ou bien, on reste à notre niveau, comme on dit, ou bien on dit, Seigneur, je ne baisserai pas les bras. Je croirai à ce que tu as dit. Et cette femme veuve nous donnera des... Enfin, c'est une parabole, c'est vrai, mais elle va nous instruire. Quand ça paraît impossible et que je sais que c'est mon droit, je le réclamerai. Pas forcément avec des larmes, mais avec confiance que ça, ça m'est accordé. C'est fait au ciel. Et sur la terre, ça sera fait. Que l'impossible devienne possible, ça c'est le langage de la foi. Que l'indicible devienne disible, ça c'est le langage de la foi. Que l'invisible devienne visible, ça c'est le langage de la foi. Et la foi c'est le bras qui saisit en fait l'invisible. C'est le bras qui, ou bien c'est la bouche qui parle l'indicible. La foi ce sont les yeux qui voient l'invisible. En fait c'est ça. C'est rien d'autre que cela. Et je vais encore illustrer par un autre exemple pour montrer qu'on n'acquiert pas les choses comme ça. Je parle des choses spirituelles, des choses qui viennent de Dieu, évidemment, des choses divines qui viennent de Dieu. On ne les acquiert pas comme ça. On les acquiert aussi par une action, notre part. Vous savez, quand je lis ma Bible dans 1 Roi, chapitre 18, c'est un deuxième passage que je donne, ce sera probablement le dernier. Dans 1 Roi, chapitre 18, verset 41, verset 42. Voilà, j'y suis. Il a dit simplement ici, Élie dit à Acab, monte, mange et bois, car ce grondement, c'est la pluie. Acab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se courbant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son jeune serviteur, monte donc, regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, il regardait et dit, il n'y a rien. Et il dit, sept fois, retourne. À la septième fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer. Il est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte, dit à Acab, attelle et redescend, afin que la pluie ne t'arrête pas. De toutes parts, le ciel devient noir de nuages, le vent se leva et eut une forte pluie. Acab monta sur son char et partit pour Israël. Amen. C'est un passage qui illustre un peu ce que je suis en train de montrer un peu. Élie avait fermé le ciel pendant 3 années. Et effectivement, n'a pas plu. Normalement, après les 3 années, il devait commencer à pleuvoir. Mais si vous lisez attentivement ce passage-là, lorsque les 3 années sont accomplies, il n'a pas plu. Lisez bien ce passage. Prenez le temps et lisez, vous allez voir. Il n'a pas plu. En fait, Élie a entendu le grondement. Mais il n'y avait pas de pluie. On peut entendre le grondement. Il a perçu dans le spirituel que normalement, il était le temps de pleuvoir où la pluie est arrivée. Mais il n'y avait pas de pluie. Vous savez, ce qui s'est passé dans le passé, bien entendu, est là pour nous instruire dans notre marche aujourd'hui, dans notre marche contemporaine. Il a entendu le grondement, il n'y avait pas de pluie. Alors, il s'est mis à prier. Vous savez, c'est ça aussi la foi aussi. C'est accompagné de prières, d'actions, d'attentes. Il a droit. Israël avait droit à la pluie. Et il l'a réclamé. Il l'a réclamé en priant. Il a prié une fois. Il n'y avait toujours rien du tout. Le grondement avait déjà eu lieu, mais il n'y avait pas de nuages. Parce que pour qu'il pleuve quand même, il faut qu'il y ait des nuages. S'il ne pleut pas comme ça, il y a une formation de nuages et tout ça qui se forme. Et puis, généralement, le ciel devient très sombre. Et puis, il commence à pleuvoir. Il entend le grondement. Donc, il perçoit le moment. Il pense que c'est le moment. Mais dans la réalité, il n'y a rien. Des fois, on sent que c'est le temps, n'est-ce pas, de la grâce de la part de Dieu. Pour, oh, je ne connais pas les besoins des uns des autres. Pour réussir dans ceci, on le sent. Mais il n'y a rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on mange, on dort et les choses se passent comme d'habitude? On peut dire, Seigneur, oui, je crois. Est-ce qu'on peut hâter les choses? Moi, je pense que c'est possible. Ici, il y a hâté les choses. Parce que c'était dans le plan de Dieu. Il dit, mais c'était dans le plan de Dieu. Parce qu'il le savait, c'était dans le plan de Dieu. Les 3 années étaient déjà accomplies. Il a prié une fois. Des fois, on prie une fois et puis qu'on n'est pas exaucé, tant pis, bon Dieu n'exauce pas, c'est pas la peine. Non. Il a prié une deuxième fois. Il envoie son serviteur, va à l'horizon s'il y a quelque chose. Pas des nuages. 3 fois, rien. Il aurait pu se décourager. 4e fois, rien. Il aurait pu se décourager. Non. 5e fois, rien. 6e fois. Et la 7e fois était la bonne. 7, le chiffre 7, la perfection. Ça nous instruit un peu sur comment est-ce qu'on peut avoir des rapports dynamiques avec Dieu. Des rapports actifs. Et je pense que les rapports qui existent entre le père, fils et mère, fille aussi nous instruit également sur notre rapport avec Dieu. La 7e fois était là-bas. Et s'il a paru à l'horizon, n'est-ce pas, ce nuage qui avait la main d'un homme. Moi, j'appelle ça la main de Dieu. Le miracle vient toujours pas de manière extraordinaire. Ça peut venir par un petit nuage. Un petit nuage. Et Élie a compris que le grondement plus le petit nuage donne la grande pluie, le miracle. Vous savez, les miracles extraordinaires commencent toujours par un petit grondement qu'on a entendu, un petit nuage qui a la dimension de la main d'un homme. Apparemment, ce n'est pas extraordinaire, mais Dieu, tu as dit quand même qu'après 3 ans, il pleurait. Mais oui, c'est suffisant. Le petit nuage est suffisant parce que c'est dans le plan de Dieu. Rappelez-vous que Dieu agit toujours à partir de ce qu'on a. Oui, de ce qu'on a. Rappelez-vous l'histoire de la femme veuve dans 2 Rois chapitre 4. Un peu d'huile a été suffisant pour remplir les barriques, ne maintenaient pas d'huile. Notre vie avec Dieu est une vie de foi. Toute notre vie avec Dieu est une vie de foi. Mais une foi active, une foi vivante, une foi participative. Et lorsque nous arrivons, n'est-ce pas, à agir ainsi, alors Dieu se glorifie. Dieu se glorifie parce que Dieu se rend compte que nous savons. Que nous savons ce qui est vrai. Nous savons ce qui est juste. Et nous pouvons, n'est-ce pas, nous fixer des objectifs. Et lorsque nous marchons par rapport à ces objectifs-là, le Seigneur ne peut que se glorifier. Pour revenir un peu à mon témoignage, lorsque je pensais un peu ce que j'ai dit dimanche passé ici, à ces échecs, et qui auraient pu nettement me décourager et dire, écoutez, ça, ce plan de Dieu, je veux vraiment qu'on en arrête là, ça suffit comme ça. Vous savez, lorsque Dieu veut faire quelque chose avec toi, dans ton cœur, il y a toujours cette flamme. Vous savez, c'est par cette flamme que tu as au fond de toi, que tu sais que même si c'est difficile, vas-y. La flamme qui est là, on n'éteint pas la mèche qui fume encore. On ne peut pas éteindre la mèche qui fume encore. On ne brise pas le roseau cassé. Au fond de son cœur, il y a cette flamme qui est allumée. Elle est peut-être invisible ou peut-être pas trop forte, mais elle est suffisante, n'est-ce pas, pour activer le feu. Gloire à Dieu. Si vous avez cette flamme en vous, quelles que soient les circonstances, même si au niveau humain, vous avez affaire à un juge inique qui ne respecte ni Dieu ni le diable. Ne laissez pas votre flamme s'éteindre. Soyez comme cette femme. Réclamez. Attendez-vous à Dieu. Il le fera. Et quand je vois aujourd'hui, bien sûr, que l'échec, je suis passé au succès et avoir la plus haute mention que soit décernée, je dis, ok, très bien. C'est un signe que Dieu montre pour que, en prêchant l'évangile, ça soit quelque chose de concret pour dire aux frères et aux sœurs que même ici, dans leur vie, les choses semblent s'éteindre. Et même si les choses paraissent impossibles, comme le cas de cette femme face au juge unique, il doit continuer de croire, afin que l'invisible devienne visible, l'impossible devienne possible, afin que l'indicible devienne disciple. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce qu'il est possible de trouver des hommes de foi, des femmes de foi? Rappelez-vous, parce que je finis sur cette question, sur ça, le Seigneur a dit, quand il va revenir, est-ce qu'il trouvera sur la terre des hommes de foi? Des hommes de foi pour changer les choses, mais pour être aussi un témoignage pour eux-mêmes, pour leur descendance, pour leur génération. Et je crois que nous n'avons pas le choix, comme dit quelqu'un, croire ou périr. Quelles que soient les situations dans lesquelles tu te trouves ce matin, si tu t'es engagé dans une affaire ou dans quelque chose que ce soit, et qu'apparemment tu es en face d'un juge unique, d'un patron ou d'un collaborateur ou des personnes qui paraissent, en tout cas qui sont dans ce cas-là, ne baisse pas les bras. La Bible déclare que nous devons imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Et toutes les promesses de Dieu sont pour nous. À moins que Dieu me dise à moi spécialement que ça, c'est pas pour toi. S'il me le dit, bien entendu, je n'ai plus rien à faire. Parce que Dieu a une bouche, il parlera, il me dira, oh, Abraham, ce n'est pas pour toi. Mais tant qu'il ne me l'a pas dit et que je me suis engagé dans quelque chose, je n'ai pas de raison de croire que ce n'est pas pour moi. Et c'est pourquoi j'ai pu arriver au bout de mes études. C'est pourquoi aussi tu peux arriver au bout de tes affaires, de ton ministère. Tant que Dieu ne dit pas, ce n'est pas pour toi. Si tu ne l'as pas dit, c'est que c'est vrai, c'est pour toi. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut prier un instant, s'il vous plaît? On va prier et on va dire au Seigneur que nous pouvons être des hommes de foi et nous devons être des hommes de foi, des femmes de foi, capables de changer les choses. Et même si on a devant soi un juge unique qui ne craint ni Dieu ni le diable, quoi qu'un tel juge n'existe pas, et qui nous refuse de nous accorder ce qu'on a droit, ne mendions pas comme les enfants illégitimes, mais parlons au Père comme des enfants légitimes, qui ont accès à la chambre de leur Père, qui peuvent y entrer même sans permission, parce que c'est notre droit. Oui, c'est mon droit d'avoir la santé. C'est mon droit d'avoir le succès dans mes affaires. C'est mon droit de me relever quand je suis tombé. C'est mon droit de parler un langage. Oh, c'est mon droit de toucher l'excellence parce que Dieu est un Dieu excellent. C'est pourquoi j'ai chanté, oh Dieu très haut, que ton nom, n'est-ce pas, soit glorifié. Je veux que tu pries pour toi-même et je ne sais pas, attends-toi la grâce de Dieu dans ta vie. Prions ensemble s'il vous plaît, que chacun prie pour sa part.
Enseignement.com.
Enseignement.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignement.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.